You're with SBS Radio.
Au sommaire de ce journal du jeudi 27 juin 2019, un Australien de 29 ans a été arrêté à Pyongyang par les autorités nord-coréennes. Il étudiait à l'université Kim Il-sung. Vers une possible détente dans la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, Donald Trump évoque la possibilité d'un accord avec Xi Jinping qu'il doit rencontrer ce week-end lors du G20 au Japon. Et le sultanat d'Oman va ouvrir une ambassade à Ramallah. C'est le cinquième pays qui installe une représentation diplomatique dans les territoires palestiniens. Un Australien a été arrêté en Corée du Nord, une information confirmée par le ministère australien des Affaires étrangères, qui a précisé apporter une assistance consulaire à la famille de cet homme qui serait âgé de 29 ans. Le ministère indique également qu'il cherche urgemment à obtenir des clarifications à propos de cette arrestation qui se serait déroulée dans la capitale nord-coréenne, Pyongyang. D'après les médias australiens et sud-coréens, le jeune homme en question s'appelle Alex Sigley. Et il était étudiant à l'université Kim Il-sung, a priori le premier Australien à avoir jamais étudié dans une université nord-coréenne. Et puis donc une possible trêve dans la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine, c'est ce qu'a laissé entendre le président américain Donald Trump, qui laisse entrevoir la possibilité d'un accord avec Pékin à l'issue d'une rencontre prévue plus tard cette semaine avec le dirigeant chinois Xi Jinping, ce qui signifierait également qu'il ne mettrait pas en place de nouvelles barrières douanières sur les produits chinois. Les deux chefs d'État doivent se rencontrer en fait ce week-end dans le cadre du G20 qui se déroule au Japon, une rencontre qui serait la première entre Donald Trump et Xi Jinping depuis novembre 2018. Donald Trump était interrogé par la chaîne Fox Business Network. Il a donc indiqué que la conclusion d'un accord était possible, mais il a aussi assuré que les barrières douanières imposées à la Chine avaient jusqu'à présent été bénéfiques aux États-Unis.
Now you have another $325 billion that I haven't taxed yet. It's ripe for taxing, for putting tariffs on. This never happened to China. Now, what is happening is people are moving out of China, companies are moving out of China. By the way, some are coming back to the United States.
Et parmi les victimes collatérales de cette guerre commerciale entre les deux plus grandes économies du monde, il y a l'Australie. C'est pourquoi le Premier ministre australien Scott Morrison compte profiter du G20 pour implorer Donald Trump d'apaiser les tensions avec la Chine. Scott Morrison a en fait obtenu un rendez-vous avec Donald Trump en marge du sommet du G20 qui se tient donc à Osaka. Et il a également ajouté dans une déclaration que cette rencontre avait également pour but de souligner la force de la relation entre l'Australie et les États-Unis. Direction maintenant Hong Kong, où des milliers de personnes ont manifesté la nuit dernière contre un projet de loi qui permettrait l'extradition des citoyens hongkongais vers la Chine continentale. Après la marche, de jeunes manifestants se sont dirigés vers le quartier général de la police, où ils se sont tenus à l'extérieur du bâtiment pour réclamer à grands cris la mise en place d'une enquête indépendante sur la répression violente par la police d'une manifestation qui s'était déroulée plus tôt ce mois-ci. Pour Alvin Yang, qui est membre du conseil législatif, c'est à Carrie Lam, qui est donc la dirigeante de Hong Kong, d'apaiser les tensions. On l'écoute.
An empty apology, of course, is not enough, and we find out by now. They have their demands, and they are all reasonable demands. And I have absolutely no idea why this government is not paying attention or answering to this request or demands.
Et le gouvernement hongkongais, pour être complet, a suspendu le débat autour de ce projet de loi suite aux premières manifestations qui ont eu lieu plus tôt ce mois-ci. Mais ceux qui contestent ce projet de loi exigent en fait son retrait pur et simple. On prend maintenant la direction du Moyen-Orient et plus précisément du sultanat d'Oman qui vient d'annoncer son intention d'ouvrir une ambassade à Ramallah dans les territoires palestiniens. On fait le point avec Guilhem Deltey, le correspondant de RFI à Jérusalem.
Avec cette représentation, Oman va devenir le cinquième pays arabe à ouvrir une ambassade à Ramallah. Un geste de soutien au peuple palestinien, assure le ministère omanais des Affaires étrangères, mais aussi l'occasion pour le sultanat de renforcer sa présence dans les territoires palestiniens et possiblement de se poser en tant que médiateur avec les Israéliens. Car Mascate est de plus en plus présent dans le dossier israélo-palestinien. En octobre dernier, le sultan Qaboos a notamment reçu à tour de rôle le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou. Oman n'entretient pourtant pas de relations diplomatiques avec Israël. En tant que membre de la Ligue arabe, le sultanat n'est censé normaliser ses relations avec Israël qu'après la création d'un État palestinien. Mais Mascate ne fait plus mystère de ses liens avec les autorités israéliennes. Le sultanat a malgré tout moins une stratégie de bloc que certains de ses voisins, Arabie Saoudite en tête. La diplomatie omanaise n'est pas alignée sur celle des États-Unis. Oman a notamment boudé la conférence de Manama sur le processus de paix israélo-palestinien. Le sultanat cultive son indépendance, qualité essentielle pour un médiateur. Guilhem Deltey, Jérusalem, RFI.
Et on s'envole maintenant pour Miami, aux États-Unis, où vient tout juste de se terminer le tout premier débat entre les nombreux prétendants démocrates à l'investiture pour l'élection présidentielle qui se déroulera l'année prochaine. Il y a donc tellement de candidats, une vingtaine, qu'il y aura en fait deux débats. C'est donc le premier qui vient tout juste de se terminer. Et dans celui-ci, les candidats les plus en vue sont Bernie Sanders et Elizabeth Warren, qui désormais le talonnent dans les sondages. L'envoyé spécial de RFI, Anne Corp, a interrogé l'un de ses supporters. On l'écoute.
Elizabeth Warren n'était pas mon premier choix, mais quand j'ai commencé à l'écouter et à lire son projet, ce qu'elle veut faire pour ce pays, eh bien j'ai été impressionné. Et je me suis dit, c'est ma candidate. Tous les autres ont raison sur bien des points, mais ils n'ont pas de plan à mettre en œuvre. Elizabeth, elle a identifié des solutions. Elle sait comment résoudre les problèmes et comment financer son programme, c'est très important. Elle vient de gagner 2 points dans les sondages, elle grimpe, et je pense que ce soir va être un grand moment pour elle. Et quand les gens commenceront à lire son projet, ils seront d'accord pour dire que c'est ce dont nous avons besoin. Nous sommes fatigués de voir ce qui se déroule à la Maison-Blanche en ce moment, et nous avons besoin de changements. Tout ce que fait la Maison-Blanche est au bénéfice des riches, et Elizabeth veut inverser cette tendance. Cependant, quel que soit le candidat qui l'emportera aux primaires, je voterai démocrate, mais en attendant, je soutiens Elizabeth Warren.
Et en Australie, une mère de famille est toujours à l'hôpital après que 3 de ses enfants aient été tués dans l'incendie de leur maison mercredi matin dans la vallée de Hunter en Nouvelle-Galles du Sud. Ce terrible drame a emporté 2 jumelles âgées de 5 ans ainsi que leur frère aîné qui lui avait 11 ans. Leur mère en revanche ainsi qu'une autre sœur âgée de 8 ans ont pu être secourues à temps et elles sont donc depuis soignées à l'hôpital John Hunter. Mais évidemment cette affreuse histoire attriste et choque les proches de cette famille. Une cagnotte en ligne a été lancée dans les heures qui ont suivi l'incendie et ce jeudi matin à 9h plus de 116 000 $ avaient déjà été récoltés. Un mot maintenant de l'ONG Save the Children qui se dit très inquiète pour la sécurité d'Australiens qui se trouvent toujours dans des camps de réfugiés en Syrie. L'ONG fait savoir qu'elle a appris que des combattants restés fidèles à l'organisation État islamique menaçaient de tuer ceux qu'ils considèrent aujourd'hui comme des traîtres pendant leur sommeil. Save the Children estime également que la médiatisation récente de l'exfiltration de 8 enfants australiens qui se trouvaient dans un camp au nord de la Syrie pourrait attirer l'attention sur une 50aine de femmes et d'enfants australiens qui sont toujours dans ce pays en guerre et donc accroître les risques auxquels ils sont exposés. Il faut les faire rentrer en Australie le plus vite possible, estime Matt Tinkler, le directeur de Save the Children.
We are very pleased that the government has repatriated some children or started that journey, and what we'd ask is they now move on quickly to support the other Australians in this dire situation.
Sport maintenant, le Pakistan a battu la Nouvelle-Zélande à la Coupe du Monde de cricket et conserve donc des chances d'atteindre les demi-finales. La Nouvelle-Zélande qui était invaincue depuis 6 matchs reste pour l'instant deuxième au classement juste derrière l'Australie et elle devrait malgré cette défaite rester parmi les 4 premiers ou plutôt les 4 derniers donc à atteindre les demi-finales. Tandis que le Pakistan n'est désormais plus qu'à 1 point du pays hôte, l'Angleterre. Alors les prochains matchs pour le Pakistan seront contre le Bangladesh Bangladesh et l'Afghanistan. Ce sera les derniers matchs de poule. Et l'Angleterre, elle, se prépare à des matchs plus difficiles puisqu'elle va affronter l'Inde et la Nouvelle-Zélande. Et puis en France, la Coupe du Monde de football féminin continue. On vous rappelle d'ailleurs à ce sujet que le prochain match de l'équipe de France, ce sera samedi à 5h du matin, heure australienne, heure de la côte Est, pour les quarts de finale contre les États-Unis. Et vous pourrez suivre ce match en direct et avec des commentaires en français sur notre application Radio SBS, mais aussi sur le site web de World Game SBS. Pour finir, on jette un œil à la météo de ce jeudi en Australie. Des averses à Perth où il fait 17 degrés, du soleil à Adélaïde où il fait 20 degrés, soleil aussi à Melbourne avec 17 degrés. Le vent souffle fort en revanche sur Hobart où la température maximale sera de 15 degrés, 15 degrés aussi à Canberra. De possibles averses sur Wollongong avec 18 degrés, pareil à Sydney où il fait 20 degrés et c'est la même température pour Newcastle. Il fait en revanche 22 degrés à Brisbane, 26 à Cairns et 30 à Darwin où le soleil brille.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.